Vous écoutez France Culture.
Et bonsoir à tous. Suite et milieu, ce mercredi, d'une semaine entière sur la franc-maçonnerie, en compagnie ce soir de François Tual, ancien professeur de géopolitique au Collège interarmé de défense, grand maître d'honneur de la Grande Loge des cultures et des spiritualités, avec qui nous allons évoquer l'hypothèse pugnace, fumeuse, délirante, voire du complot maçonnique. Rebonsoir donc François Tual.
Rebonsoir.
Et bienvenue sur France Culture. Alors c'est bien connu, cher monsieur, les francs-maçons sont responsables de tout. De la Révolution française à l'unité italienne, de la Révolution russe à la Société des Nations, de toutes les plutocraties du XXe siècle, des grandes guerres, voire même de la dernière guerre du Golfe. Il n'y a guère que les juifs qui puissent discuter aux francs-maçons le privilège fantasmatique d'être à ce point au cœur et à l'origine de l'histoire en marche et de ses tragédies. D'ailleurs, l'antisémitisme et l'antimaçonnisme fusionnent régulièrement dans le cerveau complotiste de ceux qui, simplistes et complotistes, de ceux qui passent leur vie à traquer des boucs émissaires. À quoi tient ce fantasme, François Tual ? D'où vient que les francs-maçons ont toujours fait les frais de cette passion morbide ?
Bien, je pense qu'il y a une génétique de l'antimaçonnisme ainsi qu'une géographie. À l'origine, l'antimaçonnisme au XVIIIe siècle vient essentiellement de l'Europe latine et catholique, parce que beaucoup y voient une nouvelle invention du protestantisme pour affaiblir l'Église catholique et la papauté. Ensuite, lors des révolutions que vous avez citées, américaines, françaises, puis les révolutions liées à l'émancipation des pays de l'Amérique latine, il y a eu l'idée qu'il y avait des complots comme ça pour abattre les trônes et les autels, si on peut ainsi dire. Et ceci a été relayé par des penseurs qu'on pourrait qualifier aujourd'hui de conservateurs, voire d'extrême droite. Donc ça, c'est une première phase, je dirais, d'inspiration religieuse. Par la suite, la fin de l'époque révolutionnaire, de l'époque napoléonienne, l'Europe de la Sainte Alliance, a amené les francs-maçons qui étaient mal vus, qu'on rendait responsables de ces révolutions, alors que beaucoup de ces souverains étaient eux-mêmes maçons, eh bien, à se tourner progressivement vers les forces libérales, républicaines. Et donc là, vous avez une deuxième époque de l'antimaçonnisme, qui est un antimaçonnisme politique.
C'est-à-dire on est passé de l'âge religieux à l'âge politique.
Grosso modo.
On peut le dire comme ça.
Oui, en simplifiant bien sûr. Il y a un troisième âge contemporain de la montée des totalitarismes après la Première Guerre mondiale, qui est dans le nazisme et le fascisme, où là, il y a en effet en plus, je dirais, une fusion quasi totale des thèmes antisémites et anti-maçons. Alors, le problème, c'est que ces légendes, c'est un peu le même mécanisme de l'antisémitisme, reposaient sur des éléments qui étaient poussés au maximum de leur capacité, délirante. Bon, je prends un exemple en France qui est très intéressant. Sous la Troisième République, beaucoup de familles juives, désireuses de s'intégrer, mais ne souhaitant pas se convertir à une des deux religions chrétiennes, les hommes rentraient dans la franc-maçonnerie. C'était le cas, par exemple, dans ma famille. Bon, et à ce moment-là, les antisémites et les anti-maçons qui se recrutaient dans les mêmes milieux politiques constatèrent qu'il y avait plus de
juifs chez les maçons qu'ailleurs.
Que dans la société, voilà.
La proportion de juifs était supérieure chez les maçons que dans la société.
Voilà, c'est un fait qui est établi par des historiens comme Annie Kriegel et autres, qui est très intéressant et qui va nourrir le fantasme. Et qui va l'amener à se transformer de façon pathologique, c'est-à-dire, s'ils sont plus nombreux, c'est parce qu'en fait, pour eux, c'est un moyen de s'emparer du monde.
Voyez, à quoi on pourrait rétorquer d'ailleurs que le nombre d'antisémites est supérieur chez les anti-maçons que dans la société également.
Voilà, tout à fait. Donc, ce qui est intéressant dans un pays comme le nôtre, ce soir, c'est de voir qu'il reste quand même des rémanences de l'anti-maçonnisme dans des courants politiques extrémistes et même au niveau d'une opinion générale qui a tendance à accorder aux francs-maçons plus de pouvoir qu'ils n'en ont. Moi, j'ai souvent dit que si les médias pouvaient assister un jour à des réunions de loges, ils y rencontreraient des hommes et des femmes en général assez modestes socialement et qui ont des préoccupations d'une grande banalité. Ce n'est pas là que se font la politique ou l'opposition à un gouvernement.
Mais François Tual, pourquoi les médias n'y ont-ils pas accès ? Est-ce que ce que je veux dire dans cette question, c'est que, est-ce que le mythe du complot maçonnique n'est pas entretenu aussi par un certain sens du secret, plus encore que de la discrétion d'ailleurs, chez les francs-maçons eux-mêmes ?
On ne peut pas dire qu'il y a un sens du secret. Vous avez à peu près 61 000 ouvrages en France qui sont parus depuis un siècle sur la franc-maçonnerie. Vous pouvez lire tout sur tous les grades. Ce qui est discret, c'est le fait que, comme dans beaucoup de traditions ésotériques, la maçonnerie considère qu'elle n'a pas à se déployer sur la place publique, mais à l'abri, reprenant un vieux thème gnostique, que la croissance de la pensée se fait comme la croissance de l'embryon dans le ventre, c'est-à-dire à l'abri, non pas de la lumière, mais dans une certaine intimité. Alors cette intimité, elle est vite devenue le lieu d'un complot. Mais qu'est-ce qu'il y a de secret aujourd'hui, dans une société parcourue et sillonnée de médias, dans la franc-maçonnerie ? Toutes les cérémonies des grades sont expliquées dans les livres, y compris ce qu'on appelle les mots secrets, qui sont simplement des signes de reconnaissance. Bon. Vous pouvez même aller à la Procure, grande librairie, place Saint-Sulpice, vous avez un rayon extraordinaire, il y a tout. Qu'est-ce qu'il y a de secret ? Les gens qui sont francs-maçons, régulièrement, vos collègues des médias en dressent des listes, en général assez justes. Mais qu'est-ce qu'un maçon ? Est-ce que c'est quelqu'un qui a un jour été initié ? Il y en a beaucoup qui sont initiés, qui s'en vont. C'est un phénomène dont on ne parle pas.
Mais François Tuol, pardonnez-moi. Le secret, ça n'est pas le secret, puisque objectivement, la simple possibilité de faire ces émissions avec des gens qui reconnaissent bien volontiers qu'ils sont francs-maçons prouve bien que cette idée-là n'a pas de sens. Mais le secret, c'est aussi le sentiment du secret. C'est le sentiment qu'on peut avoir du secret. En somme, comme le dit l'homme du commun, si vous voulez, qu'on ne nous dit pas tout, qu'on nous cache quelque chose. Ce sentiment-là, il est aussi entretenu par une atmosphère. Vous avez parlé d'ésotérisme tout à l'heure. L'ésotérisme de la maçonnerie peut-être flatter chez les gens le sentiment, justement, qu'on leur cache quelque chose qui est de l'ordre d'une vérité qui serait aux mains des puissants. Comment se ferait-il s'il n'y avait pas encore ce sentiment du secret que n'importe quel hebdomadaire qui veut vendre du papier a, parmi ses marronniers, entre les prix de l'immobilier, le mal de dos, le classement des hôpitaux, il y a les francs-maçons, leur rôle, leur influence véritable. C'est bien qu'il y a quelque chose encore, à quoi ça tient ça ?
Moi je crois que ce mot de secret n'est plus adapté à l'époque actuelle. Ce qu'on veut dire de secret dans la maçonnerie, c'est qu'il y a des mutations de la subjectivité intérieure d'un être et qu'elles ne sont pas complètement verbalisables. C'est plutôt à ça que ça correspond, le secret. Mais quel est le secret ? Vous avez des francs-maçons de droite, de gauche, du centre, certains d'extrême-gauche, certains même, je dirais, d'extrême-droite.
Ça existe.
Ça existe.
Mais comment on peut être franc-maçon et d'extrême-droite, François ?
Extrême-droite, c'est pas forcément nazi, ça peut être des gens très conservateurs. Moi, je connais une loge, dans une obédience de la banlieue parisienne, de la banlieue chic, où se réunissent des gens qui sont tous d'ascendance aristocratique et qui ne sont pas exactement marxistes-léninistes. Bon. La franc-maçonnerie...
Henri Coston, situé d'ailleurs dans la franc-maçonnerie, dans les débats au sein de la Grande Loge Nationale de France, je crois, à l'origine de la scission du Front National entre Bruno Maigret et Jean-Marie Le Pen.
Tout à fait. La franc-maçonnerie, on pourrait la définir un peu que ce que disait Hegel de la vérité, c'est la présence d'une absence. C'est-à-dire, il y a une présence, tout le monde dit qu'il y a un secret, mais il n'y a pas de secret. C'est en attendant Godot de Beckett.
C'est le paradoxe, il n'y a pas de secret.
Il n'y a pas de secret.
En somme, si le rideau se levait, ce que nous verrions serait extrêmement décevant. Puisque...
Oui, c'est exactement ce que je pense. Alors, prenons un exemple concret, la formation des gouvernements, les grands problèmes politiques du pays. Évidemment que les francs-maçons ils contribuent par leur réflexion et par leur engagement politique. Mais il y a un certain nombre d'obédiences où il est interdit de parler de politique en loge. Ça, on l'oublie. Comme il est interdit de parler de religion. Donc, on est arrivé dans une situation où, à force de dire « il n'y a pas de secret », on pense qu'on cache des secrets terribles.
En somme, si le maçon n'existait pas, l'antimaçon l'inventerait.
Peut-être.
Alors, on va revenir avec vous, François Tuol, sur les épisodes donc de ce fantasme du secret, de ces portes closes, donc on imagine closes sur des univers maléfiques et qui pourtant ne sont closes que sur des cérémonies ordinaires. Revenons un instant sur le premier des trois âges de cet antimaçonnisme dont vous avez parlé, l'âge religieux. Dans cet âge religieux, vous dites qu'on a longtemps perçu la maçonnerie d'abord comme un instrument de la politique anglaise, plus tard on dira de l'impérialisme anglais. On est au XVIIIe siècle, à peu près au début du XVIIIe, et puis ensuite comme un nouvel instrument du protestantisme pour détruire la papauté.
Alors, Parce que précisément, qu'est-ce que la papauté du XVIIIe siècle ? C'est un État qui a une superficie de 100 000 km². Une armée, une police, des tribunaux, des prisons, tout ce qu'on veut. C'est un État. Et il a en face de lui les puissances protestantes. Or, la maçonnerie va se fabriquer, va se concocter dans les îles britanniques. Et elle va se répandre sur le continent européen par les ports. Donc, il apparaît évidemment que ça arrive de l'Angleterre, que ces protestants, les grands fondateurs sont d'ailleurs pour beaucoup des huguenots français passés dans les îles britanniques. Et donc, il va y avoir les premières condamnations par la papauté qui voit un ennemi, ce qui est erroné. Parce que à cette époque-là, la maçonnerie s'occupe pas tellement de politique, puisque la plupart des rois de France à cette époque vont être francs-maçons. Il y a des très beaux livres d'histoire qui s'appellent « Les Ducs sous l'Acacia ». L'Acacia est le symbole de la franc-maçonnerie. Donc, c'est à partir d'une mauvaise lecture, je dirais délibérée, que va se former ce sentiment que la maçonnerie est une machine à détruire. Non seulement la foi chrétienne, mais surtout, je dirais, la papauté.
Est-ce que c'est une machine à détruire ou est-ce que c'est perçu comme une institution concurrente ?
Les deux, à mon avis.
Alors, ce sentiment est à l'origine de la première bulle papale relative à l'excommunication de la franc-maçonnerie. On est là en 1738.
Tout à fait.
Ça a commencé comme ça.
Mais elle n'est pas appliquée parce que le Parlement de France ne veut pas l'appliquer.
Pourquoi ça ?
Parce que le Parlement de France est resté certainement très gallican. Et les autorités, y compris de la Cour, se méfient beaucoup de la volonté, à l'époque, n'employait pas le mot, mais de supranationalité de la papauté.
Alors, dans quelle mesure l'épisode révolutionnaire, donc de la fin du XVIIIe siècle, donne un nouvel essor à l'antimaçonnisme ? Par exemple, ce qui est étonnant, c'est qu'on a accusé la maçonnerie d'être à l'origine de la Révolution française, or bien des contre-révolutionnaires, je pense à Joseph de Maistre, étaient francs-maçons eux-mêmes.
Ben, ça va même beaucoup plus loin. Vous avez la moitié des prêtres non-jureurs, c'est-à-dire qui refusent de prêter serment, mais qui sont des francs-maçons. Bon, et à Coblence, beaucoup d'émigrés sont des maçons, à commencer par...
La France blanche est maçonne.
En partie, comme Louis XVIII et Charles X. Tout change avec 1815, si vous voulez. Bon,
vous voulez dire avec la chute de l'Empire.
La chute de l'Empire, le retour des trônes.
On a parlé de l'Empire comme de l'âge d'or de la maçonnerie.
Ah bah oui, parce que les loges militaires vont propager la maçonnerie dans toute l'Europe. Donc là, vous voyez, il y a un basculement, et ce basculement génère un nouveau basculement, qui est que petit à petit... Je parle toujours dans l'Europe de civilisation catholico-latine, parce que nous voyons bien que, par exemple, dans l'Europe protestante de Scandinavie ou de Grande-Bretagne, voire même de l'Allemagne protestante, eh bien, les souverains sont francs-maçons. Presque tous les rois d'Angleterre étaient francs-maçons, y compris le dernier roi, le père de la reine actuelle. Alors, tout ceci montre qu'il y a une complexité du fait maçonnique, que l'antimaçonnisme, pour arriver à ses fins, aplati, parce que c'est simple de dire, voilà, ils sont responsables de tous les maux.
En somme, quand un discours antimaçonnique qui reposerait sur l'élitisme maçonnique, leur soi-disant discrétion, la hiérarchie qui ne dévoile pas ses membres les plus influents, le système des réseaux qui s'oppose à des groupes de réflexion ou à des lobbies, etc., etc., et le tout teinté d'une sorte de passion pour l'occulte ou l'occultisme ou l'ésotérisme, cet ensemble-là est très largement fantasmatique.
À mon avis, oui. D'autre part, j'ajouterais que dans des sociétés démocratiques où la police est très bien faite, on sait très bien qui est franc-maçon, qui ne l'est pas. Donc il n'y a pas de secret. C'est pas des carbonaros, si vous voulez. On a eu aussi tendance à confondre les carbonaros, je rappelle, cette espèce de société politique assez violente, où il y avait des francs-maçons. Bon. Mais il y a des francs-maçons conservateurs dans l'histoire de la franc-maçonnerie. Il y a des gens qui sont assez peu présentables, d'ailleurs, si nous nous plaçons du point de vue de critères démocratiques. Par exemple, le fondateur de l'apartheid en Afrique du Sud était franc-maçon. Le fondateur du Ku Klux Klan aussi. Dans la famille, il y a des gens...
Vous voulez dire que ce sont des gens qui ont passé les rites initiatiques de la maçonnerie, qui les ont passés avec succès ?
Ça ne les empêchait pas.
Comment est-ce compatible avec les principes qui sont ceux justement de la maçonnerie, avec le principe d'abord de rationalité ?
Des maçonneries françaises. Dans cette maçonnerie, par exemple, dans l'Afrique du Sud, eh bien, les fondateurs de l'idée d'apartheid étaient le même, c'était le général Smuts qui avait commandé l'armée sud-africaine et qui était, avec Wilson, le meilleur défenseur de la Société des Nations. C'était les deux principaux protagonistes. Donc, je crois qu'il faut arrêter de voir l'histoire de la maçonnerie mondiale à travers les lunettes de la maçonnerie française, où en effet, elle était assez marquée à gauche pendant longtemps.
Dir des unermesslichen Welt als Schöpfer ihr, Jehova nennt ihn, oder Gott nennt fu ihn, oder Brahma. Hört, hört, Worte aus der Posaune des Allherrschers. Laut tönt durch Erden, Monde, Sonne, ihr ewiger Schall.
Cantate maçonnique de Mozart pour nous accompagner aujourd'hui, François Tual, et évoquer avec vous l'hypothèse fumeuse du complot maçonnique. Alors parmi les porte-paroles, les héros de cette hypothèse infernale, il y a l'abbé Baruel.
Qui a joué un grand rôle,
dont la thèse, lui, était de dire effectivement que la franc-maçonnerie voulait se substituer littéralement à la religion catholique.
Alors, je pense qu'il y avait là une lecture tout à fait erronée de la maçonnerie de son époque. La maçonnerie aspire à quoi? Même pas à l'ésotérisme que nous évoquions tout à l'heure, elle aspire à une certaine émancipation de la personne humaine et dans certaines formes à une émancipation de la société. Alors, il est évident qu'à partir du moment où on souhaite que rien ne bouge, on va voir dans cette franc-maçonnerie la responsable de tous les malheurs.
C'est finalement d'ailleurs la raison pour laquelle, bien qu'il y ait des conservateurs chez les francs-maçons, la franc-maçonnerie sera rangée du côté du progressisme et stigmatisée par le conservatisme.
En France, en Italie, en Belgique et un peu en Espagne. Dans les pays latins, toujours. En Amérique, la franc-maçonnerie, elle n'est pas très progressiste. Et dans les îles britanniques, c'est pas le parti radical de la Troisième République, voyez. Donc ne lisons pas l'histoire de la maçonnerie mondiale à travers l'histoire politique de notre pays ou de pays qui ont une histoire similaire, c'est-à-dire où la franc-maçonnerie a été à tort stigmatisée comme une puissance destructrice.
Oui, franc-maçonnerie, France-maçonnerie, la tentation est grande. Il y a un épisode crucial dans l'histoire de l'antimaçonnisme où on assiste effectivement là à une fusion de ces deux formes de haine, de ces deux folies que sont l'antimaçonnisme et l'antisémitisme. C'est le moment de l'affaire Dreyfus, mais également, c'est une période où les maçons n'ont pas tous été exemplaires, François Tual, en tout cas pas tout de suite.
Tout à fait. Vous savez qu'au début de l'affaire Dreyfus, un certain nombre d'hommes de gauche étaient contre Dreyfus. Donc ce n'est que petit à petit que les choses se sont rééquilibrées, au bénéfice non seulement de la gauche, mais je rappellerai qu'un des plus grands défenseurs de Capitaine Dreyfus a été Poincaré, qui lui était un homme de droite. Donc là aussi, méfions-nous des simplifications.
Alors quelle était la position des maçons, des francs-maçons, pendant l'affaire Dreyfus?
Je ne pense pas qu'il y ait eu de position collective. Je ne pense pas.
Parce majoritairement, ils étaient de quel côté?
Majoritairement, la maçonnerie à cette époque-là, donc fin 19e, début 20e, est une maçonnerie qui est engagée dans le combat républicain.
Mais le combat républicain, ça peut être la lutte contre l'antisémitisme ou la défense de l'armée. Donc
voilà. Donc à partir du moment où il semble évident qu'il y a eu un micmac, pour parler familièrement,
un faux,
et que bon, on l'a accablé Dreyfus, je crois que la maçonnerie a fini par se ranger collectivement derrière Dreyfus. Mais c'est pas à ce moment-là qu'à mon avis, il y a le plus grand mouvement anti-maçonnique, c'est durant l'entre-deux-guerres dans notre pays.
Mais enfin, juste pour rester un instant sur l'affaire Dreyfus, le propre de l'affaire Dreyfus, c'est qu'on est là en présence effectivement d'un complot. Façon de dire que quand un complot arrive, il est dénoncé. On le voit. Or, la franc-maçonnerie, elle n'est pas comploteuse. Donc c'est intéressant de voir qu'il y a là, quand il y a un complot en démocratie, en général, ce complot finit par être le faux d'Esterhazy, on l'a trouvé.
On l'a trouvé, on a très bien pu ne pas le trouver. Vous savez, il a fallu le courage de quelques hommes, de quelques personnalités, aujourd'hui un peu oubliées. Je pense, par exemple, toujours pour être un peu iconoclaste, un des plus grands défenseurs du capitaine Dreyfus était le prince de Monaco, qui avait dit à Madame Dreyfus, mon nom, mon rang et ma fortune sont là pour défendre votre mari. Donc, nous ne pouvons pas non plus dire que c'était toute la gauche et toute la droite qui était, vous voyez, moi j'ai toujours eu très peur de ces simplifications. Là, mais pour répondre précisément à votre question, la franc-maçonnerie finira à la fin de l'affaire Dreyfus par être quasiment complètement derrière Dreyfus. D'autant plus qu'elle est attaquée par les forces obscurantistes qui attaquent Dreyfus au motif qu'il est juif. Or, il faut aussi rappeler qu'à l'époque, dans l'armée française, il y avait déjà au moins facilement plus d'une centaine d'officiers d'origine israélite. Donc Dreyfus n'est pas le seul juif de l'armée française, comme parfois on a tendance un peu superficiellement à le croire.
En même temps, Dreyfus était riche. Il y avait dans l'affaire Dreyfus aussi une haine du riche, probablement. Est-ce que cet élément, l'argent, ou en tout cas le pouvoir, est un élément déterminant dans la haine antimaçonnique, hein ?
Non, on ne peut pas dire que la franc-maçonnerie d'avant la Révolution, elle recrute dans la noblesse et la haute bourgeoisie. Mais après, sociologiquement, disons au XIXe siècle, c'est plutôt, on dirait, comme maintenant, plutôt dans les classes moyennes. Donc je ne pense pas qu'il y ait l'imputation. Par contre, pour en arriver à l'âge totalitaire, dans les délires communistes ou nazis, la franc-maçonnerie symbolise la plutocratie anglo-saxonne.
C'est-à-dire le gouvernement des riches. Hein.
Voilà. Le gouvernement des riches. Alors là, c'est un thème qui apparaît tardivement, qui apparaît dans la période, comment dirais-je, de la phase totalitaire de l'entre-deux-guerres.
Alors pourquoi ? Pourquoi à ce moment-là ? Au moment de l'émergence des nouveaux totalitarismes ?
Non, parce que pour ce qui concerne l'Allemagne et l'Italie, enfin l'Allemagne nazie et l'Italie fasciste, la franc-maçonnerie est perçue comme un instrument de l'impérialisme anglais, comme vous avez dit tout à l'heure. Donc, qui est responsable de la défaite. Et donc, c'est le sursaut nationaliste hystérique qui va dire, mais en fait, non seulement c'était les plutocraties qui ont écrasé nos pauvres pays, mais ils sont dirigés par des gens, et la franc-maçonnerie fait partie de ça. Et là, on recoupe le complot aux Juifs. Dans le totalitarisme soviétique, là, c'est très simple. La franc-maçonnerie est une pensée bourgeoise, est un leurre bourgeois destiné à tromper. Et elle doit être éradiquée, et au besoin par la violence qui fut faite dès l'instauration dès la fin de la guerre civile. Cela d'autant plus que ceux qui ont renversé le tsarisme en 1917 étaient presque tous francs-maçons, à commencer par Kerensky.
Oui, qui était donc le socialiste révolutionnaire, voilà. L'homme de la révolution de février.
Socialiste révolutionnaire, mais dans le sens, disons...
Littéral du terme, mais c'était l'appellation, les SR.
Oui, c'est lui qui a proclamé la République.
Voilà, c'est lui qui a proclamé la République et le renversement du tsar. Et puis, il y a cette histoire du protocole des sages de Sion.
Ah oui.
Alors, le protocole des sages de Sion est pour mémoire, hein, chacun sait que c'est un faux grossier qui avait été rédigé par l'Okhrana, qui était la police secrète russe au début du XXe siècle, il y a un peu plus de 100 temps maintenant, et que c'est un texte qui aujourd'hui est très largement diffusé dans le monde entier comme véritable. Alors quel rapport entre le protocole des sages de Sion, c'est-à-dire ce texte épouvantable où soi-disant certains juifs se seraient réunis pour fomenter le projet de domination mondiale et les méthodes pour ce faire, et l'antimaçonnisme, François Tual?
Eh bien écoutez, je vais vous répondre parce que je me suis longtemps posé la question. Et je pense que là aussi, il y a un retournement historique. Et je l'ai compris en étant un jour à Belgrade, en feuilletant un livre anti-maçonnique, écrit en serbe, et qui avait ajouté deux chapitres au protocole des sages de Sion, montrant qu'aujourd'hui, ce protocole avait été étendu par la franc-maçonnerie à un autre type de domination du monde. Vous voyez, donc, on prospère dans la folie. Et donc... Au début,
est-ce qu'il n'y a pas l'idée que les Juifs se servaient des francs-maçons pour assouvir leur projet de domination mondiale ?
C'est ce qu'il y avait dans ces chapitres. C'était d'autant plus intéressant à lire, c'est que dans la Yougoslavie de l'entre-deux-guerres, la Yougoslavie royale, il n'y avait pas plus de 200 francs-maçons d'après mes recherches. Et donc, ce pays, dans sa renaissance aujourd'hui, Milosevic, ultranationaliste, tout ce que vous voulez, est tombé directement dans la soupe et de l'antisémitisme en publiant, et de l'antimaçonnisme en y ajoutant deux chapitres.
Alors, vous avez parlé tout à l'heure de l'antimaçonnisme soviétique. Il faut rappeler que la Troisième Internationale, François Tual, qui a été mise en place donc pour coordonner les partis communistes, la Troisième Internationale interdit aux membres des partis communistes de continuer à pratiquer la franc-maçonnerie.
Tout à fait.
Dans quelle mesure est-ce contradictoire l'appartenance au parti communiste et l'appartenance à la franc-maçonnerie?
Mais après la scission de Tours, il y a un certain nombre...
Donc après le congrès de Tours, après 1920, voilà. C'est-à-dire la scission en somme de la SFIO, voilà. Et la naissance du parti communiste,
voilà,
français.
Il y a un certain nombre de francs-maçons qui se retrouvent au parti communiste français, dont certains sont très célèbres, comme André Marty, bon... Eh bien là, la Troisième Internationale va leur dire « Si vous voulez rester au Parti communiste français, c'est très simple, vous démissionnez de vos loges. Ce n'est pas compatible, la franc-maçonnerie véhicule une vision du monde bourgeoise, vous, vous êtes au service d'une vision marxiste-léniniste, et donc vous n'avez pas à coopérer avec les ennemis de la classe ouvrière. »
Donc les éléments du complot maçonnique, François Tual, pour récapituler tout ce qu'on raconte là depuis le début de l'émission, c'est que la franc-maçonnerie véhicule des idées bourgeoises, ou la franc-maçonnerie véhicule des idées révolutionnaires, ou la franc-maçonnerie est le bras armé de l'Empire napoléonien. Est-ce qu'on peut rassembler les différents griefs épars qui forment l'antimaçonnisme dans l'histoire? Est-ce qu'on peut les unifier finalement sous un concept?
Vous me forcez un peu à aller plus loin que ma pensée, mais j'ai quand même tenté de répondre à votre question. C'est que si la franc-maçonnerie représente la modernité dans toutes ses formes, éthique, économique, tout ce que vous voulez, politique, l'antimaçonnisme et se définit un dénominateur commun, comme on dit en mathématiques, qui est le refus de toute forme de modernité.
Est-ce que vous ne faites pas du mot de modernité un usage un peu non réflexif, si j'ose dire? Parce que la modernité, c'est quand même complexe. La franc-maçonnerie a le culte des traditions. C'est même, on pourrait même dire à l'occulte des traditions, dans la mesure où il y a des traditions qui sont immuables.
Vous savez, on pourrait dire de la franc-maçonnerie ce que Nietzsche avait dit un jour, je ne sais plus quel peuple, ils sont d'avant-hier et d'après-demain. C'est vrai que la maçonnerie repose sur la notion de tradition. Mais il y a deux façons de comprendre la tradition. Ou la tradition est la répétition du même, de façon hystérique et identique, ou la tradition est porteuse de valeurs qui vous permettent d'affronter la nouveauté du monde. Or, je crois que le dénominateur commun, pour répondre, finir de répondre à votre question, de tous les antimaçonnismes, c'est le refus de tout progrès.
Merci François Tual d'être venu nous voir. Juste avant de prendre congé, une petite question, une phrase du maréchal Pétain qui dit ceci. Les juifs ne sont pas responsables de leur naissance, mais un franc-maçon est toujours responsable de ses choix.
C'est une phrase terrible, parce que c'est une phrase qui a amené à la mort des milliers de gens. Et elle montre vraiment l'essence totalitaire, si besoin était, du régime de Vichy.
Il faut rappeler que dès le mois de décembre 41, c'est vous qui le faites, François Tual, dans un article, il y a un service de police qui est consacré aux sociétés secrètes à installer Square Rap et qui quotidiennement travaillait avec la Gestapo et la BER à arrêter les francs-maçons. Dernière phrase, une phrase cette fois-ci du général de Gaulle, le contraire du maréchal Pétain, qui a dit en 45 ou en 44, quand on lui a demandé de rétablir la franc-maçonnerie, il dit « Je n'ai pas à rétablir la franc-maçonnerie car elle n'a jamais cessé de vivre. »
Oui, cela dit, il a quand même supprimé les décrets anti-maçonniques. Mais je trouve que la phrase est très belle. Parce que c'était Jacques Soustelle, qui était le chef de ses services secrets, qui était venu lui demander de rétablir la franc-maçonnerie dans ses droits. Et de Gaulle a eu ce cri du cœur, alors que le général de Gaulle était un homme qui n'était pas de tradition maçonnique, était plutôt de la tradition catholique. Eh bien, et là, il y avait certainement l'expression de son profond sens de la démocratie.
Eh bien, on va s'arrêter là. Merci François Tual, merci d'être venu nous voir. Je rappelle que vous êtes professeur de géopolitique au Collège Interarmée de Défense, ancien professeur de géopolitique, et par ailleurs grand maître d'honneur de la Grande Loge des Cultures et de la Spiritualité. franc-maçon depuis 32 ans, c'est vous qui me l'avez dit. Demain, nous recevrons Roger Daché, historien de la maçonnerie, président de l'Institut maçonnique de France, pour reparcourir l'histoire de la maçonnerie. Un grand merci au monde des religions pour leur soutien toute cette semaine, à la technique aujourd'hui Pierre Monteil, à la réalisation François Connac, assistante Geneviève Méric, Avril Ventura, Marion Richer, France Culture, il est 20h. Tout de suite, on retrouve À Voix Nue sur France Culture.